بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. La dernière fois, on avait vu le verset « فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ » jusqu'à la fin du verset. On avait vu les différentes tafsirs, les différentes opinions de Ibn Kathir, d'Al-Fakhr al-Razi, d'Ibn al-Qayyim et d'autres ulama contemporains sur ce verset « azim », ce verset exceptionnel qui, si l'être humain, le musulman, comprend l'importance de ce verset, alors qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on restera toujours dans le droit chemin. Nous ne serons jamais détournés du droit chemin par l'argent, tout comme nous ne serons jamais détournés du droit chemin à cause de la pauvreté. On avait vu que, en résumé, qu'il y a une catégorie de personnes, lorsque Allah Ta'ala le comble de bienfaits, alors cette personne, elle n'a pas conscience, elle ne reconnaît pas que c'est Allah qui lui a donné. Elle a l'impression que c'est moi qui ai gagné ça. C'est pas mon travail, c'est pas mon intelligence. Il y a une autre catégorie de personnes. Lorsqu'Allah Ta'ala lui a donné des bienfaits, elle se dit que Allah m'a donné parce que j'ai bien mérité. Parce que j'ai des qualités, c'est pour ça qu'Allah me l'a donné. Et d'autres personnes encore, lorsque Allah Ta'ala les donne des bienfaits, ils sont contents. Et si Allah Ta'ala les éprouve, là, ils se révoltent contre la décision d'Allah, contre le taqdir. Donc, cette manière de voir les choses est totalement contraire à ce qu'Allah Ta'ala attend de nous. Et le musulman, il comprend que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, ça vient uniquement de la part d'Allah. Moi, j'y suis pour rien, ça c'est un bienfait de la part d'Allah. Et Allah ta'ala attend de moi que je sois reconnaissant et que j'utilise ces bienfaits comme Allah me l'a demandé. Et si Allah m'a éprouvé en me reprenant ce bienfait, ou par la pauvreté, ou par la maladie, par un problème de la famille, ou quelle que soit la difficulté, en aucun cas, je vais dire pourquoi Allah m'a éprouvé, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Et en aucun cas, donc, on va se révolter contre le destin, mais on se dit que pourquoi Allah m'éprouve, Allah il attend quelque chose de moi, et on va essayer d'avoir la réaction qu'Allah attend du musulman éprouvé, c'est-à-dire la patience, et être conscient qu'Allah nous rétribuera si nous avons la bonne manière d'agir dans les difficultés. Donc ça c'était un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc dans les deux cas, nous devons être intelligents, on doit se poser les bonnes questions. Quand tout va bien, quand on a des bienfaits, on doit se dire « Allah m'a donné la richesse » ou « Allah m'a donné l'intelligence, m'a donné la santé, qu'est-ce qu'Allah attend de moi ?» Ce n'est pas que c'est naturel, je suis naturellement beau ou naturellement en bonne santé ou naturellement riche, non. Si Allah m'a donné, qu'est-ce qu'Allah attend ? On ne dit pas en contrepartie, parce qu'Allah n'a pas besoin de nos actions. Mais qu'est-ce qu'Allah il attend de nous par rapport à ses bienfaits ? Et donc agir comme Allah l'a demandé. Et si ça ne va pas, Allah m'a éprouvé, Allah il est hakim et adl, Allah il est juste et sage. S'il a envoyé cette difficulté, Allah il attend quelque chose de moi, et quelle doit être ma réaction face à cette difficulté? Ça c'est le musulman intelligent. Donc, dans le verset qu'on va commencer aujourd'hui, Allah Ta'ala désapprouve ce que les gens pensaient, cette manière de penser qu'on avait expliqué la dernière fois, dont on va relire brièvement la traduction. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Là, il est d'accord, il est content. Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Il a l'impression que si Allah y reprend, Allah m'a humilié ou Allah m'a opprimé. Na'oud billah. Et Allah Ta'ala dit « Non, ce n'est pas comme ça. Kalla, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimer les richesses d'un amour sans borne. » Donc Allah Ta'ala il fait une reproche à ces gens qui pensaient de la sorte, Et Allah Ta'ala dit à ces gens, Kalla, bien au contraire. C'est-à-dire, bien au contraire, Allah Ta'ala, on comprend que Allah Ta'ala veut dire que Allah ne vous a pas donné parce que vous êtes les meilleurs ou parce que vous méritez. C'est un bienfait de la part d'Allah. Et de même, si Allah a pas donné ou Allah a éprouvé quelqu'un, c'était pas pour l'humilier, mais c'est dans sa, mais pardon, c'est dans sa sagesse. Kalla, non, bien au contraire, Balla tukrimun al-yatim. C'est plutôt vous. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Donc, les Mufassirs disent que Allah Ta'ala fait la reproche et dit que plutôt c'est vous. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de bienfaits, alors pourquoi est-ce que vous n'agissez pas correctement avec l'orphelin? Vous voyez, Allah fait la reproche à ces gens que Allah les donne des bienfaits, mais malgré ça, ils n'utilisent pas ces biens comme Allah le veut. Et parmi les plus grandes des actions, c'est al-ihsan, agir correctement avec les orphelins, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc on ne va pas développer la notion hein, de al-ihsan, agir correctement avec l'orphelin. Par contre, petite parenthèse, en commentaire, le Mufassir dit que lorsqu'on parle d'orphelin, c'est vrai qu'à La Réunion, il n'y a pas d'orphelin, donc ça ne nous concerne pas directement, mais l'orphelin, c'est tant l'orphelin riche que pauvre, ou alors l'orphelin pauvre que riche. Même un homme très riche, un millionnaire, qui meurt et qui laisse derrière lui un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, cet enfant est considéré comme orphelin. Qu'on comprenne bien, quand on parle d'orphelin, c'est pas juste l'orphelin du pauvre. Même un milliardaire qui meurt, qui laisse un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, c'est considéré comme orphelin. Et les mêmes récompenses que vous aurez en faisant ihsan, en agissant bien avec un orphelin pauvre, vous aurez ces récompenses en agissant correctement avec un orphelin un enfant dont le père riche est décédé. Pourquoi cela? Parce que dans l'islam, il y a un principe. Quand dans la société, il y a une personne qui est touchée, une personne qui est atteinte, une personne qui a été affaiblie, éprouvée, nous nous devons de soutenir cette personne. Que la personne soit riche ou pauvre. C'est-à-dire que là, dans ce cas, cet enfant a perdu son père, même si c'est une famille très riche, nous nous devons de soutenir cet enfant parce qu'il fait partie de notre société. Et comme le hadith il dit que le musulman, c'est comme bunyan al-wahid, c'est comme une construction. La société des musulmans, c'est comme un bâtiment. Yashuddu ba'buha ba'ba. Chaque pierre, en ce sens, chaque pierre supporte celui qui est au-dessus. C'est cette conception de la société que nous devons intégrer. C'est pas nafsi-nafsi. C'est pas le capitalisme, notre notion de la société. C'est pas que je fais ma fortune, peu importe si c'est le dos des gens. Le plus important, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Non. Travailler, gagner, alhamdulillah, si Allah il donne, c'est tant mieux. Mais regardez les personnes qui sont affaiblies, qui sont dans les difficultés de la société. Tant qu'on ne sera pas proche des gens faibles, des orphelins, des pauvres, nous n'aurons jamais le iman complet. Qu'on comprenne bien. Et en commentaire, le Mufassir dit également que ce genre de message, quand Allah Ta'ala demande aux musulmans d'agir correctement avec l'orphelin, il faut resituer ce message dans le contexte. Ça remonte à combien de temps ça? À 15 siècles. Ça remonte à 1500 années, c'est-à-dire pendant le Wahi, ça c'est à Mecca. Depuis 1500 années, Allah Ta'ala attend du musulman qu'il agisse correctement avec l'orphelin et avec le pauvre. Et si on analyse l'histoire des civilisations, il y a 15 siècles, personne ne se souciait des faibles. Quand quelqu'un est faible, il est faible. D'accord? D'ailleurs, dans la société française au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe, il y a le clergé, il y a la noblesse, et il y a le tiers-état, la bourgeoisie, quelque part par là. Enfin, le plus bas qui nous intéresse, c'est le tiers-état. Le tiers-état, c'est le pauvre, lui. Le pauvre, le paysan, l'artisan, celui qui n'a pas de grande lignée. Il est pauvre, tant pis pour lui, il n'est pauvre, il mourra pauvre. Et jamais le bourgeois, jamais le noble, il n'ira faire un geste pour ces gens. Il n'y a aucun intérêt. C'est son destin, c'est sa caste. D'accord? Mais cette notion de division dans la société entre riches, moyens, pauvres, ça, il n'y a pas dans l'islam. D'accord? D'ailleurs, la zakat est donnée pour quoi? Quand le prophète dit aux sahaba d'aller prendre la zakat avec les villages, c'est la zakat est prise avec les riches, et la zakat est redistribuée aux pauvres de la même localité. Et c'est un moyen pour réduire les disparités, pour réduire les écarts qu'il y a entre les couches de population, entre les couches de la population dans une même société. C'est un système exceptionnel, ça, la zakat. Si vous regardez dans les pays où la zakat est toujours prélevée, je prendrai l'exemple de Makkah ou Madina ou dans les autres villes de l'Arabie Saoudite, ben, les pauvres, beaucoup de pauvres, peuvent vivre de l'argent de la zakat. C'est suffisant. Parce que tous les riches d'une même localité, ils tirent la zakat une fois par an. En plus des sadaqas qu'ils vont donner régulièrement, mais c'est, cet argent est distribué aux pauvres. En général, ils donnent pour le même quartier. Ou alors, ne serait-ce la même ville. Quelqu'un de Jeddah, il ne va pas envoyer son zakat à Riyad. C'est inconcevable. Ça ne se fait pas. Il ne va pas envoyer son zakat à Dubaï. Il ne va pas envoyer son zakat au Bangladesh. Sauf si vraiment il y a un cas. S'il y a un cyclone ou un tremblement de terre, autre chose, ça d'accord. Mais en général, l'argent est donné aux pauvres de la localité. Ce qui établit un équilibre dans la société. Le pauvre, ben, il a une entrée d'argent annuelle, qui est la zakat, qui lui permet de vivre correctement pendant ne serait-ce 3 ou 4 mois. Et puis, il y a le sadaqa régulièrement. C'est-à-dire, par le biais de la zakat, la sadaqa, par l'incitation que le prophète a fait de if'am ou ta'am, donner à manger aux gens, ben, cela réduit les écarts entre les couches de la population. Le pauvre, il ne se sent plus trop pauvre parce qu'il a des entrées d'argent par le biais des riches, et le pauvre n'est pas coupé de la société. Ici, un pauvre, là, s'il ne reçoit pas la CAF, s'il ne reçoit pas les aides de l'État, il n'est pas loin, hein. Si ici, on retient la CAF, on retient les assédiques ou le RMI, ben, c'est comme Madagascar, mes chers frères. Hein. C'est comme les gens qui meurent de faim ou dans d'autres pays d'Afrique. Alhamdulillah, on a certains bienfaits par rapport à notre gouvernement qui donne pas mal de choses. Mais qu'on comprenne bien que dans certains pays, un pauvre, il reste pauvre, il meurt pauvre. Tandis que par le nizam, par le règlement, par ce qui a été établi par l'islam avec la zakat, la sadaqa, la zakat ou le fitr, ça c'est exceptionnel ça, mes chers frères. Est-ce que, dans une autre religion, un jour de fête, il y a une aumône spéciale? Je vous pose la question. Est-ce que dans d'autres religions, le jour de Noël, ou le jour de l'an, ou on va pas citer d'autres religions, est-ce que le riche est censé donner une aumône aux pauvres? Le jour de Noël, là, le riche, il va manger son dinde ou dindon, ou dodo, il va manger ce qu'il veut, lui, taïb, mais parce qu'il est dans une grande villa, mais dans le HLM en face, d'accord? Le pauvre, il est dedans, là. Il mange le boîte de thon, ou alors le crevette qui coûte 3,50 €. C'est comme ça. Tandis que dans l'islam, le jour de Eid, il y a une zakat. On appelle ça fitra ici, hein. Mais le terme en arabe, dans les livres de Massa, c'est zakat ou le fitr. C'est ce qui doit être donné le jour de Eid. Et ça, il faut donner avant la salat de Eid. Pourquoi? Parce que votre voisin qui est pauvre, ou celui qui habite dans le même quartier, il va recevoir le zakat ou le fitr de la part de plusieurs familles, de 5, 6, 7, 8 familles, ce qui le permettra, le jour de Eid, de vivre lui aussi un jour de fête. Lui aussi, aujourd'hui, avec ce qu'il va avoir, il mangera bien. Ses enfants vont bien manger. Et s'il a un peu de liquide, il pourra donner peut-être... Le cadeau n'existe pas à l'origine, mais ce sera vécu comme un jour de fête. Alors que dans les autres religions, le jour de fête, celui qui a, il fait la fête. Celui qui n'a pas, ben, il fait moins la fête. Où il fera la fête le lendemain avec les restes du riche. Taïb, regardez l'équilibre parfait qu'il y a dans l'islam concernant les pauvres et les faibles et les orphelins. Taïb, et le verset qui vient juste après, voilà tahabbuna ala ta'amil miskin. Et Allah Ta'ala, il fait sa deuxième reproche, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Allah fait cette reproche que ces gens, ils n'aident pas les pauvres. Et en plus de ça, ils ne s'encouragent pas pour aider les personnes qui sont dans la nécessité. Taïb, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette parole ajib. Si on comprenait, ben on ferait comme Ibn Abbas. Si je ne me trompe pas, c'est Ibn Abbas, hein, il attendait quand est-ce que les gens ils venaient lui demander un service. De nos jours, quand il dit, Abu Ghayra, il a besoin d'un service. Hopé, il nous passe par l'autre porte. ou ça, hein, ou ça met ça sur matin, côté 2000. Oh, puis ne passe pas à côté boulangerie, ne sort pas là-bas. Aïe, aïe, ça demande ma monnaie, là. Mais ça demande, viens d'aller déplacer son meuble, viens d'aller déménager, tout et tout. Mais le jour, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on fuit la personne, qu'elle me pardonne. Peut-être moi aussi, je suis comme ça. Aïe, aïe, ça bloque, ça mange mon coco deux heures, ça cause avec moi. Ça raconte à moi son problème, son petit famille, son petit père, son madame et tout. Vaut mieux, mais ça va. Paix dans le temps. Qu'elle me pardonne mon premier. Taïb, Ibn Abbas, il attendait la journée. Certaines versions, Allah me pardonne. Ibn Abbas ou un autre sahaba de cette même génération, Allah alam, il attendait quand est-ce que quelqu'un vient lui demander un service. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a comme récompense dans le fait d'aider son prochain. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire tahajjud. Tout le monde est prêt à garder une grande barbe. Tout le monde est prêt à être premier staff. Tout le monde est prêt à faire un katam. Tout le monde est prêt à donner l'argent dans la masjid pour Ramadan, ou donner, etc., iftar et tout et tout. Mais est-ce que nous sommes prêts à aider notre prochain? Est-ce qu'on est prêt à donner de notre temps, de notre corps, pour aller avec quelqu'un, pour régler un problème, pour l'aider, c'est-à-dire aller voir notre prochain qui est dans la difficulté? Ça, c'est difficile. C'est comme si que de nos jours, on a mis une barrière. Moi, j'ai un objectif. Il y a deux murs là. J'ai mon travail, madame, enfants, et je fonce. Ce qu'il y a autour, chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Faites doigt à la veille des autres. C'est pas comme ça. C'est vrai que fais doigt à la yette. Je suis d'accord du principe. Monsieur le Prophète sallam avait agi de la sorte avec les muhajirin lorsqu'ils étaient arrivés à Madina Munawwara. Les Mekwa, les musulmans de Makkah, ils ont quitté Makkah, ils sont arrivés à Madina. Les poches vides, ils n'avaient rien. Comme Suhaib al-Rumi, il a dû tout laisser pour avoir l'autorisation de quitter Makkah pour aller à Madina. Monsieur le Prophète avait dit à ces gens pauvres, bon, écoutez, Sahaba, vous avez un degré de iman, faites deux rakats dans le masjid Nabawi, Allah vous aidera. C'est vrai, le Prophète a appris qu'on se retourne vers Allah. Mais le Prophète ne s'est pas contenté de ça. Le Prophète a fait mu'akhat, chaque muhajir, le frère d'Ansar, aidez votre prochain. Le Prophète a donné conseil. Le Prophète a dit que celui qui fait la salade le soir lorsque les gens dorment et qui donne à manger aux gens, cette personne rentre au paradis. Le Prophète a montré les deux choses. Il y a le culte, adorer Dieu, d'accord, mes chers frères. Mais en même temps, aidez votre prochain. Sinon, cette religion serait une religion hypocrite. Nous sommes tous dans la masjid et nos frères meurent de faim, nos frères sont endettés, nos frères sont dans des maisons, vont être expulsés, tel souci. Et nous, on dit, nous sommes les plus pieux, hein, chacun ses problèmes, ils n'ont qu'à se diriger vers Allah. Ce n'est pas comme ça. Et le Prophète dit hadith, « Wallahu ta'ala fi auni l'abdi ma kana l'abdu fi auni akhi. » Ça, c'est un hadith à prendre par cœur, à graver sur nos murs, à graver sur notre front si c'était possible. Et à enseigner à nos enfants que Allah Ta'ala aide son serviteur, ma kana, c'est-à-dire à partir du moment où celui-ci aide son frère. Parfois on est dans la difficulté, demande-toi. Allah n'y aide pas. Oui, d'accord, mais il y a deux jours là, Bougami waouh, il a dit, nous l'est le 27 du mois, il n'a plus rien, le frigidaire est vide, il n'a plus rien à manger, il n'a plus d'argent. Donnez un petit 20 euros, l'envoyez balader. Vous n'avez pas aidé votre prochain, Allah ne vous aide pas. Wallahu ta'ala fi auni l'abdi ma kana l'abdu fi auni akhi. Mes chers frères, ce genre de hadith là, on doit écrire sur un papier, mettre trempé dans l'eau et boire cette eau comme un tavise. Au lieu de boire n'importe quoi, on doit boire ces hadiths là. Au moins on comprend ça, c'est gravé dans notre tête. Parce que nous on est sûr que il y a des gens, je vous assure, ils sont persuadés que quand ils meurent, ils vont dans le Firdaus. Je vous assure. Il y a des gens qui se croient religieux. Ils ont la panoplie. Et Allah seul les juge. Nous, on ne juge pas. Hein. Mais le problème, c'est quoi? Nous, on ne juge pas. Mais c'est comme si que eux, ils peuvent juger les autres. Que moi, mes telles familles, moi, je crois. Mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait ça. Moi, j'ai tel grade. Pour lui, le paradis est gagné. Hein. Grand-père finit signe de bail. Paradis pour mon garçon, mon petit-enfant. Il a fini. Il a d'aoulus du fruit et tout. C'est bon. On a paradis où? C'est comme si c'est parti, on est sur des rages. Là, Wallah. Et quand on regarde l'autre, il n'y a pas la barbe, ça, il vient pas à Panama. Mon frère, vous ne connaissez pas quoi il y a de son cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, il aime de cette personne. Peut-être que cette personne, du matin jusqu'au soir, cette personne pleure. Difficulté, maladie, problème. Qui connaît ça? Et qu'Allah Ta'ala, il est en train d'élever cette personne par ses difficultés. Allah Musta. Qu'Allah nous pardonne, mes chers frères. Vraiment, il y a tellement de saleté dans nos cœurs. Nos cœurs sont tellement rouillés. Vraiment, si Allah n'a pas pitié de nous, là, ben on ira dans le Jahannam, ça c'est sûr. Si Allah n'a pas pitié de nous, si Allah ne juge pas nos actions, on va pas loin. Peut-être que quand Malik al-Maut vient prendre notre âme, Shaitan qui détourne à nous. Vraiment, on sera sauvé que par la rahmat d'Allah Ta'ala. Et qu'on comprenne bien que Allah Ta'ala, il nous aide à partir du moment où on aidera notre prochain. Taïb. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Autre reproche qu'Allah Ta'ala y fait. Et aimer les richesses, non, qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace. Allah Ta'ala fait ses reproches que les gens-là, ces personnes, leur relation avec l'argent est tellement intense que lorsqu'ils ont l'héritage, ils dévorent l'héritage comme des voraces. Taïb, si quelqu'un il meurt, l'héritage, ils prennent. Et ils prennent ce qui les revient et ce qui ne les revient pas aussi. Et il y a des gens qui sont comme ça. On ne fait pas une critique là, on ne critique pas les gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas un ban, comme on dit, pieux dans tous les actes de la religion. Mais si vous mettez un billet de 500 euros sur la table, la tête y tourne. Vous allez appeler Montagne là, Mont Blanc, il dit c'est Mont Blanc. Ça c'est, vous l'avez dans un supermarché. Namaz, tahajjud, tout y est. Mais mettre un billet mauve sur la table, c'est fini. La tête y tourne. Il peut faire tout pour vous. Ça c'est un piège de Shaitan, mes chers frères. L'argent et les femmes, ça y a rien de pire. Il y a des gens qui sont pieux, il y a tout. Une fille, si une fille a fait un clin d'œil ou une avance, ne peut pas résister. C'est une faiblesse de la nature de l'homme, faiblesse à combattre. Ou alors, problème d'argent. Voyez, si on est en difficulté, la banque vous propose un prêt, mais il y a un taux d'intérêt. On accepte parce qu'il faut bien faire, mais de toute façon, il fait namaz, demande doigt, et Allah économise la situation. Non, mes chers frères. Voyez, Allah fait le reproche que ces gens, ils dévorent l'héritage, ce qui leur revient, mais également ce qui ne leur revient pas vraiment, mais ça aussi, ils prennent avec, c'est pas grave. Et malheureusement, de nos jours, combien de familles musulmanes se sont déchirées à cause de l'héritage? Parce que le frère l'a pris plus, ou un tel a été lésé ou autre chose, et des frères et des sœurs qui ont grandi ensemble, depuis tant petit, hein, fini arrive 40, 50 ans, le papa ou la maman, à l'âge de 80, 70 ou 80 ans, meurt, un problème d'héritage, après 40 ans, de fraternité, c'est fini. Il y a une cassure, le joueur hydrien, il rencontre plus parce qu'il apprend plus, il n'a pas d'amant ou pas d'héritage. L'argent, mes chers frères, ça peut briser une famille. L'argent dans un couple, ça peut provoquer un divorce. Il y a des cas, j'ai entendu ça, des cas. Madame, il dit, mariée avec, séparation de biens, et tout d'un coup, le madame, son coco, il bloque, ou bien c'est les soeurs et tout, il dit non, dis ton mari, mettez un bien sur ton nom, tu sais pas, qu'est-ce qui peut arriver un jour. Il commence, fait tout, mets un bien sur mon nom, sinon je quitte le foyer. Il dit quoi? Tout ça, t'en as vivre ensemble? Il dit oui, mets une maison sur mon nom, mets quelque chose sur mon nom, sinon je m'en vais. Une fois, une personne vient me raconter, il dit voilà, qu'est-ce que je dois faire? Madame, il dit à moi, prouve-moi que tu m'aimes, mets telle maison sur mon nom. Il dit, vous fou, fais pas ça. C'est-à-dire que, vous la mettre sur son nom, elle est finie, ou mort aux enfants, il est pitali. C'est-à-dire, tu lui as donné mulk, vous lui as donné la propriété. Donc, subhanallah, ça c'est shaitan ça. Par l'argent, Shaitan peut faire casser des ménages, peut briser l'entente dans les familles. Taïb, donc Allah fait cette reproche, qu'il mange, qu'il dévorait l'héritage avec une avidité vorace. Et il faut être réaliste face à l'argent. Même si c'est l'argent qu'on hérite de nos parents qui sont morts. D'accord? Si nos parents, quelqu'un perd son papa ou sa maman et qu'il laisse une fortune, d'accord? On va pleurer combien de temps? On va pleurer, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a un être humain sur la terre qui s'est dit que je suis tellement triste, tellement attristé par la mort de papa, que l'argent qu'il a laissé, je ne prends pas, je donne tout fis à Bilillah. Je trouve pas ça. Si vous trouvez, Jali vient me fait bête tout de suite. Mais ça vous trouvera pas ça. Quelqu'un qui dit que tellement j'aimais maman, tellement j'aimais mon père, que tout ce qu'il a légué, je ne peux pas prendre son bien tellement ça me fait mal, je donne tout, masjid, tout. Ça lève bonheur, mes chers frères. C'est-à-dire que l'être humain, il a une relation particulière avec l'argent. Et Allah Ta'ala dit ensuite, « وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا » Ah, l'argent. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. L'amour de l'argent, c'est « jamma ». Il n'y a pas de limite. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir la plus grande barbe, mettre tahajjud et tout ce qu'il faut, mettre un billet 500 euros sur la table, on va être d'accord, tout de suite. Pas de souci. Là, on est d'accord, on peut discuter. Allah musta'an. Taïb, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Taïb m'apprend en commentaire, les fascistes disent qu'on ne comprend pas à travers ça que les personnes qui ont de l'argent, ce sont des gens qui sont dans la perdition. Non. Elle dit que Ahlul Iman, celui qui a Iman dans son cœur, il se distinguera de la sorte que son cœur ne restera pas attaché à ses biens. Si l'argent, ça va, alhamdulillah, si l'argent, il rentre, il remerciera Allah subhanahu wa ta'ala et il obéira aux ordres d'Allah dans la manière de le gagner cet argent et de le dépenser et il donnera le droit de cet argent comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Tayyib. Donc, vatahibbouna al-mala hubban jamma. Ça que certains satidats disaient que si quelqu'un dit que moi, l'argent n'intéresse pas moi. Elle dit que c'est quasiment impossible parce qu'Allah ta'ala il a prouvé dans le Coran que l'homme aime les biens. L'homme aime l'argent. Tayyib. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّةً. Donc ça, ce sont là les reproches qu'Allah Ta'ala il fait par rapport à ce que les gens ils disaient, hein, que quand quelqu'un a gagné, a eu des bienfaits, ou si quelqu'un n'a pas eu, comment les gens ils voyaient la chose, les trois tafsirs qu'on a vu la dernière fois, et ça c'est les reproches qu'Allah Ta'ala il fait, que bien au contraire c'est vous, quand Allah il vous donne les bienfaits, malgré ça vous ne donnez pas aux pauvres, vous ne faites pas ihsan envers les orphelins, vous ne vous encouragez pas mutuellement à nourrir le pauvre, et l'héritage vous le dévorez avec une avidité vorace et vous aimez les richesses donc d'un amour sans borne. Taïb. Et maintenant Allah subhanahu wa ta'ala va faire les mises en garde. Quand Allah ta'ala expliquait comment les gens ils voyaient les choses et comment en réalité ce sont eux les coupables et responsables, ce sont eux qui agissent mal par rapport aux bienfaits, là Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre en garde. Attention, qu'Allah إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Première mise en garde. Allah Ta'ala, il met en garde attention de cette manière d'agir. Viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va détruire ce dunya. Et on insiste دَكَّنْ دَكَّا en deux fois pour bien montrer que ce sera détruit et complètement aplani. Comme le verset dit, « La tara fiha iwajan wala amta » en ce sens, il n'y aura ni endroit surélevé, ni crevasse. Ce sera une terre aplanie. Ce dunya, c'est comme si vous prenez une pâte, une boule de brioche, une pizza, autre chose, que vous aplatissez. Le dunya sera complètement étendu. « Tudakul jibal » les montagnes seront écrasées, tassées. Il n'y aura pas de construction, pas d'arbres, la ashjar, pas d'arbres, pas de végétation. Et la terre sera étendu mad al-adim, c'est-à-dire jusqu'à une distance que les yeux peuvent voir. C'est comme si quand vous regardez l'océan, vous ne voyez pas le bout. Et ça continue. Bien que ce sera comme ça, la terre sera aplanée. C'est comme si ce sera un désert gigantesque. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala réunira l'humanité tout entière fi makanin wahid, dans cet endroit. Dans un même endroit, il y aura tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Mis à part le arsh, bien sûr, le qalam, tout ce qu'Allah Ta'ala a créé comme être vivant, que ce soit être humain, que ce soit djinnat, que ce soit shayatin, que ce soit malaïka, que ce soit animaux, tous seront réunis dans un seul endroit, c'est le jour de Qiyamah. Allah Ta'ala donc met en garde ces gens, yusmi'uhum da'i, et les gens seront dans un endroit où ils entendront ce qui sera dit, les appels qui seront lancés par les anges, wa yunfiduhum al-basar. Et ils verront jusqu'à la limite. Ils voient qu'il n'y a rien d'autre. Tout, il n'y a pas rien. C'est une terre entièrement réservée pour réunir Al-Mahshar, pour réunir toute l'humanité. Taïb. Et lorsque l'homme sera de cet endroit, là, il va penser, yatadakkarul insan, la personne, il y aura des remords. Il va se dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais Allah Ta'ala dit, fa'anna lahu dhikra. Mais c'est fini là. Là, c'est trop tard. Parce que la vie du dunya, c'était la vie pour travailler. C'était le moment pour préparer le akhirat. Comme les gens, les mu'minoun, les musulmans à l'époque de Hazrat Moussa alayhi salam, ils avaient dit, Ya qawm, dis, oh mon peuple, innama hadil hayat ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ils disaient, oh peuple, ce bas monde, c'est mata', c'est quelque chose d'éphémère. Et par contre, l'au-delà, ça c'est la demeure de l'éternité. Faïd? Donc les musulmans à l'époque de Hazrat Moussa alayhi salam, eux ils avaient compris, ils donnaient da'awat là-dessus. Taïb. Et en commentaire, le Mufassir dit que lorsque dans le Coran il dit mata', il dit comprenons, c'est comme kama yatamatta'u al-musafir. Il dit c'est comme le voyageur qui a ses bagages. On avait cité ici ça l'exemple. quelqu'un qui va à Makkah, qui passe par là. Vous allez à Dubaï, vous n'allez pas acheter une maison, une 4x4, vous n'allez pas acheter plein de choses. Vous avez une valise, le nécessaire pour 12 heures de temps. Une serviette, un linge de rechange, un déodorant, un petit sandwich, basse. C'est comme ça le passage de ce dunya. Et comme on l'avait dit, on ne peut pas comparer 80 années de vie à l'éternité. On ne compare même pas. C'est même pas comme on prend une épingle, on trempe dans la mer et qu'on retire. Non, même pas ça. C'est rien. Parce que ce sont là deux concepts différents. Deux concepts opposés. Vie limitée et vie illimitée. Vie limitée, on ne compare même pas. C'est pas un milliardième de akhirat. C'est rien. C'est autre chose. C'est quelque chose de totalement différent, d'opposé. Et ce voyage, hein, il se termine où? Il se termine sous la tombe. Sous la terre, pardon. Ce voyage, comme on peut reprendre la métaphore du voyageur, on est en voyage, et la fin du voyage, c'est où? C'est quelques mètres sous cette terre. Cette pierre sous terre, il a ejdat, il a le kubur, hein, quand le corps il se rassoit, si on est parmi les gens pieux, le corps il reste intact sous la terre, ou alors le corps est destiné à être dévoré par les vers, par les insectes. Ça c'est la destinée de l'homme, qu'on soit blanc, noir, riche, pauvre, telle famille, connue, famille inconnue, quand on est là-dessous, les insectes, ils viennent après quelques jours, ils vous dévorent. Et puis il n'y a plus rien. Après un mois, on était, il reste l'os. On était après deux mois, ou je ne sais pas, à deux ans, il n'y a plus rien. Il reste juste, voilà, le coccyx, hein, le bassin. Il n'y a plus rien à part ça. Sauf si on est parmi les moutakis et la terre ne dévore pas. Mais ça, c'est la destinée de l'homme. Il n'y a pas un être humain. Même si on va ouvrir les tombes des rois de France, Louis XVI, Louis XIV et tout. Non, on a été décapité là. Les terroristes avaient été capitalisés. On avait déjà terroristes avant. Si on va déterrer Louis XV, Louis XIV, Henri, je ne sais qui, est-ce qu'il y a un roi qui est encore vivant? Non, pas vivant, mais est-ce qu'il y a un roi qui est encore fier de sa tombe? Fini! Que soit la noblesse, le clergé, le bourgeois, le tiers état, c'est fini! Dans le dunya, on considère lui, c'est noblesse, c'est tiers état, il vaut rien. Mais là-dessus, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Taïb? Et dans le verset, enfin ça c'est pas le verset en rapport avec le surat al-Fajr, dans le verset le Mufassir dit que Allah Ta'ala dit également ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. C'est-à-dire que c'est des étapes en étapes. Dunya c'est une étape et après ça il y a la qabr, la tombe. Et la tombe aussi c'est une étape et après ça il y a le akhirat. On continue encore parce qu'on va rentrer dans un grand chapitre là, dans le mahshar. On continue. On va dire ne serait-ce la venue d'Allah et la venue des anges. Donc, Allah, première mise en garde, Allah t'a mis en garde contre le jour où Allah va détruire ce dunya pour la résurrection. Deuxième mise en garde, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. On trouve la traduction. Et que ce jour-là, et que ton Seigneur, donc on reprend, prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, ça on a dit, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. Dans ce verset, mes chers frères, ce verset, si le musulman, il le mémorisait, hein, c'est ça, balu, hein, dans Surat al-Isha. Et je vous assure, c'est pas la première fois que j'entends Surat al-Fajr dans une salat. Peut-être 102, 103, 100 fois, on a déjà entendu al-Fajr. Mais après avoir lu aujourd'hui, je suis comme vous, j'apprends en même temps que vous. Après avoir lu aujourd'hui les versets de Wal-Fajri, et quand je l'entends dans la salade, c'est pas pareil. C'est pas comme il y a une semaine. C'est pas comme il y a deux semaines. Quand on comprend qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans Wal-Fajri, quand Allah Ta'ala met en garde que Allah il vient, et que les anges viennent, et qu'on entend ça vraiment, on se rend compte que ce sera quelque chose d'exceptionnel. Ce sera quelque chose d'inimaginable. Allah Ta'ala met en garde, وَجَاءَ رَبُّكَ, et que ton Seigneur viendra. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra vers la création. Maintenant, comment Allah il vient? Ça, la croyance d'Ahle Sunnah et Jama'a, c'est que Allah Ta'ala nous a dit qu'il vient, on croit. De quelle manière, comment? Ça, on n'a même pas le droit de poser des questions. Faites, comme Imam Malik, rahimahullah, il y a quelqu'un de Malik ici, Imam Malik, rahimahullah, on l'avait posé une question sur un verset de lequel il y a divergence, Ar-Rahman ala al-Anshistawa, et quelqu'un avait posé, mais comment est-ce que ça se fait? Qu'Allah Ta'ala, il est comme ça. Quelqu'un a posé une question concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam Malik a bougé la tête et il était tellement énervé, il était tellement gêné par cette question. Hein, il a dit que tellement cette question l'a attristé que quelqu'un peut poser une question comme ça, qu'il s'est mis à transpirer. Après, il a levé la tête, il a dit, c'est une parole ajib. Il a dit, al-istiwa ghayr majhoul. Le terme istiwa, on ne va pas rentrer dans le détail, ça nous on ne connaît pas comment c'est réellement. Wal-kayf ghayr ma'qoul. Bon là, on va rentrer dans des paroles philosophiques, on ne comprendra pas. Il a dit que comment est-ce qu'Allah il est établi sur son trône, ça, la logique ne peut pas le comprendre. La logique ne peut pas saisir cette notion. Ça c'est Allah qui l'annonce de la sorte. Mais, wal-imanu bihi wajib. Mais croire en cette chose, c'est obligatoire. On ne comprend pas comment Allah est établi sur son trône. Ça, le cerveau humain n'est pas capable de concevoir. Donc, n'allez pas dans les détails. N'allez pas essayer de comprendre comment est-ce possible. Il y a le mot dessus, il y a le arch. Comment... N'essayez pas. Ceux qui ont essayé avant, ils ont été perdus. Quand il y avait certains mouchikins, il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de Qiyamah, « وَيَحْمِلُ عَرْشُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنْ سَمَانِيَا » Qu'il y aura 8, na'oudhu billah, 8 anges qui porteront le trône d'Allah. Certains mouchtiquins, ils ont osé dire que ben nous, on ne sera plus nombreux, na'oudhu billah. Ils ont utilisé l'aql, la logique. Ils disent que 8, bas, nous, on est plus nombreux, na'oudhu billah. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Bien, quand on rentre dans la logique de ce genre de choses, on ne peut pas être imam. Et qu'est-ce qu'Imam Malik il dit? Croire en ce qu'Allah a annoncé, même si nous, on ne comprend pas, on ne saisit pas, ça c'est wajib. Et puis, Kalam Ajib, il dit, j'ai perdu le texte. Et wasu'alu anhu bid'a. Poser une question, c'est une bid'a. Comment? On n'a pas, les sahaba, ils n'ont jamais posé de question sur ce genre de texte. On a iman dessus. Bas. Ça, c'est iman bil-ghayb. Ça, c'est la force du musulman. Je ne crois, je n'ai pas vu, je ne saisis pas entièrement, mais si Allah, mon Rabb, me l'a dit, si mon Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, me l'a informé, wallahi, je lève les mains, j'ai iman dessus. Ça, c'est qualité du musulman. Alors que celui qui croit que ce qu'il voit, ça c'est, il n'y a rien pour lui. Et on va voir les personnes, je le Qiyamah, si on arrive à ce verset, ils vont voir, ils vont pas voir Allah, ils vont voir la venue d'Allah, ils vont voir les anges, ils vont voir l'enfer, et là tout le monde portera iman. Mais là ce iman n'a plus d'intérêt. C'est comme Pharaon, quand il voit ce qui se passe, il dit, comment il avait dit Pharaon? Il avait dit que maintenant il porte la foi. Allah dit, maintenant, alors qu'avant il était dans la désobéissance. C'est trop tard. Quand on voit, le iman n'a plus d'intérêt. Le iman, c'est quand on ne voit pas. C'est quand, comme à l'époque des Quraysh, des Ali d'Al-Jahiliya, je veux dire, hein, les gens, quelques musulmans, ils disent que vous êtes des fous, vous êtes des malades. Comment est-ce que vous pouvez accepter que lorsqu'on sera mort, ces poussières redeviendront corps et sont ressuscitées? C'est un fou qui vous parle, c'est un sorcier. Voyez ce lavage de cerveau, ce matraquage psychologique, est-ce que ce n'est pas équivalent à ce qui se passe aujourd'hui? Quand il y en a qui disent oui à l'école, en philosophie, les profs disent ça. Mais ce n'est pas nouveau ça. Les Quraysh, ils ont utilisé la logique contre les musulmans. Ils disent que vous êtes malade. Regardez ce corps, ce cadavre-là. Qui peut me dire que ce cadavre-là, il redeviendra vivant pour répondre à ses actions? Vous êtes fous ou quoi? Mais quand un prof de philo vous agresse, oui, dans l'islam, il vous dit ça. Mais il ne faut pas se dire que ah, de nos jours, c'est pas facile avec la philo. Mais mes chers frères, depuis 15 siècles, ils disent ça. Depuis 15 siècles, les gens utilisent la logique. Et depuis, ces gens qui ont utilisé la logique, qui sont morts sans iman, regardez comment ils sont sous la tombe. Illa marahimallah. Et les gens qui vous disent n'importe quoi sur le dîn, et si Allah a décidé qu'ils meurent sans iman, ben ils auront le même sort. Et vous gardez votre iman, même si vous n'êtes pas capable de répondre. Même si vous n'êtes pas capable de répondre à tout ce que votre prof de philo il dit, il n'y a personne de terminal, hein, évidemment, parce qu'ils sont en train de réviser le bac. Right? Donc, pour ceux qui sont en première, qui un jour iront en terminale, ou ceux qui ont été et qui ont été troublés, même si vous n'arrivez pas à répondre, ce n'est pas grave. Shaitan est en train de l'induire en erreur à cause de la logique. Comme ces mouchriquines qui ont dit qu'il y a 8 anges, ben nous on est plus nombreux. Na'ouzubillah. Na'ouzubillah, par la logique. C'est vrai que si vous êtes à 100 contre 8, qui gagne 100? Mais cette logique a perdu ces mouchriquines et perd ces personnes. Donc si vous n'avez pas à répondre, ce n'est pas un problème ça. Mais vous restez dans ce sirat al-mustaqim, dans la foi en Allah, même si vous ne comprenez pas tout, mais Allah m'a dit, j'ai iman dessus. Right? Et lui, il va vous dire toute thèse, il va tirer tout le monde philosophe. Mais ces philosophes-là, regardez où ils sont déjà, sur la tombe. Il n'y a plus, ils sont en poussière. Right? Khalas. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. On va terminer avec ça. pense que ça c'est un verset ajib. La prochaine fois, on va reprendre ça. Parce qu'on ne peut pas découper entre et la venue du Jahannam. Ça, il faut expliquer tout ensemble. Mais c'est tellement merveilleux ce verset où Allah Ta'ala explique que et ainsi, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rampant. Subhanallah. Parce qu'il explique que lorsqu'Allah Ta'ala va ressusciter les gens, toute la race humaine, les êtres, il y aura les animaux, mais les animaux seront là pour quelque temps. Un instant, Allah Ta'ala fera le jugement et puis ils seront réduits en poussière. Ça, on va revenir dessus la prochaine fois. Après, il y a les djinns, qui ont été créés donc avant nous. Et il y a les ins, tous les êtres humains. C'est-à-dire depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme sur la terre, musulman comme kafir, tout le monde sera là. Combien il y aura? 2000 milliards, 1 milliard, 2 milliards, Allah seul le sait. Et combien de djinns? 10 milliards, 2 milliards, Allah seul le sait. Toutes ces créatures-là, ils seront là. Et les anges, ils sont où d'après vous, mes chers frères? Safan, safa. Par rang. Mais par rang, c'est comment? Par rang comme ça? Non. Par rang, autour. Autour, autour. Pourquoi? Pour encercler la création. Ce jour, personne n'y échappe. Personne ne pourra s'échapper de cette assemblée. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il a mis les anges. Alors pour procéder, quant à Tib, il y a les anges, Tanzilu Malaikatus Sama et Dunya. Les anges du Dunya, du ciel qui est à la limite du ciel que nous voyons. Ces anges-là, ils descendent. Ensuite, les anges du deuxième ciel. Ensuite, les anges du troisième ciel. Regardez, la race humaine et les djinns sont là. Les anges du premier ciel, ils viennent. Les anges du deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel. Et imaginez combien d'anges il y a dans le ciel. Quand le prophète Parti Mi'raj expliquait de Sidratul Muntaha que combien de milliers d'anges il rentre une seule fois et jamais plus il revient, etc., etc. Combien de milliards, de milliards, de milliards de malaïka il y a? Et en commentaire, nous faisons, il dit pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala met les anges autour de nous? Et sachant que personne ne peut s'échapper en ce jour, mais pour que les gens ils prennent bien, ils voient bien où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est en train de se passer, exactement comme Muhammad alayhi salatu wassalam l'a informé. Vous avez les hadiths, et comme Allah a révélé à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam par le Coran, c'est exactement cette scène que les gens vont vivre le jour de Qiyamah. Vous voyez, comme nous on est là, dans un petit groupe, on est à 20 là, ou à 30, je ne sais pas combien on est, mais le jour de Qiyamah, il y aura l'univers entier. Animaux, humains et djinns, on sera tous un cercle, dans une terre qui n'aura pas de fin, et avec les malaïka qui seront autour. Et là, mes chers frères, en ce jour-là, qui bouge? Qui est capable de lever sa voix? Qui est capable de dire que non, ça c'est pas vrai? Qui est capable de porter une critique, un jugement sur son prochain? Les gens, s'ils pouvaient mourir de peur, ils seraient déjà morts de peur. Mais en ce jour, avec le soleil à tel niveau, avec la porte du Jahannam qui est ouverte, et les gens, ils auront la chaleur du Jahannam. Dans cet hadith, ça me dit que celui qui trouve un endroit pour poser ses pieds, c'est déjà un ni'amat. Tellement l'endroit sera restreint le jour du Qiyamah. Ce jour-là, mes chers frères, là, qu'est-ce qui se passera? Après, le verset qu'on va expliquer la prochaine fois, ça c'est trop grand. « Wadji ayyur ma'idim mi Jahannam » Allah Ta'ala dit que l'être humain il va dire hein, ce jour-là il dira hein, hélas que n'ai-je fait du bien hein, oui, ce jour-là l'homme se rappellera mais à quoi lui servira de se souvenir. Là l'être humain va dire que j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû porter iman, j'aurais dû faire les actions, j'aurais pas dû rater mes salades pour telle raison futile, etc., etc. Mais en ce jour c'est fini, Adam c'est terminé, il n'y a plus aucune utilité ni de demander pardon à Allah ni de regretter, parce que ce jour, ce que vous avez fait, c'est là, comme bonne action, ce que vous avez fait comme péché, c'est inscrit, et rien d'autre. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Inch'Allah, la prochaine fois, on va reprendre, lorsqu'Allah Ta'ala viendra, lorsque les anges viendront, et le spectacle plus horrible que la création n'aura jamais vu, et qu'on verra une seule fois, jamais plus, Inch'Allah, c'est la venue du Jahannam, que tout le monde va voir. Tout le monde, même Mu'min, il va voir lorsque le Jahannam viendra. Et puis, Allah nous protège. On verra ça la prochaine fois. Et on verra quel message Allah Ta'ala à la fin, il fait passer au Ahlul Iman. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de mettre en pratique, que nous puissions hein, méditer sur ce qu'on a entendu. Et quand on entend ce surat Al-Fajr, la salat, et qu'on entend « Wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa », qu'on arrive à s'imaginer que je suis le jour de la résurrection, le jour de Mahsha, je suis sans vêtements, j'ai rien, j'ai que mes actions, et il y a tout le monde, et il y a les anges qui sont là, qui surveillent, pour que personne ne parte, Et une fois c'est dit, voilà, on a déjà expliqué pourquoi. Et qu'Allah Ta'ala, il vient et que le Jahannam est présenté, quelle sera ma situation ce jour? Si vraiment on avait la compréhension des versets du Coran, on serait comme les Sahaba, comme Abu Bakr, qui pleurait tellement dans la salade qu'on ne comprenait même plus ce qu'il disait. Mais notre cœur, on a dit, c'est sale. Nos cœurs sont remplis de rouille. Vraiment, mes chers frères, qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Qu'Allah ait pitié de nous. Et qu'Allah donne tawfiq. Remplit nos cœurs de iman et de compréhension de son livre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et on a déjà fait cet appel, je le referai jusqu'au 5 juillet. N'oubliez pas, ceux qui ont entre 15 et 25 ans, inscrivez-vous pour ce programme que nous allons faire à la mairie de Saint-Denis le dimanche 5 juillet de 14h à 17h. Programme dans lequel vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez, soit par mail dès maintenant, soit en live avec les micros, soit de manière anonyme par les boîtes à questions. Tout ce que vous avez comme question, s'il y a des profs qui vous ont mis des doutes dans votre esprit sur l'islam, sur la véracité du Coran ou autre chose, ce que vous avez à poser, vous poserez. Il y aura des gens, alhamdoulilah, des ulama compétents, des jeunes qui seront présents. Il y a Moliana, entre autres, qui, alhamdulillah, que la nouvelle génération ne connaît pas trop, mais ça fait partie des anciens. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup de alim qui seront là pour répondre à ces questions. Mais il était important de s'inscrire, au moins on peut bien faire le tartib. Et on fait droit qu'Allah Ta'ala, il donne le succès dans cette organisation, que ce soit un nouveau départ pour la relation entre les jeunes et les jeunes ulama, qu'il y ait un échange permanent, que lorsque un jeune, maintenant, il est exposé à un péché ou à un problème, que cette personne n'hésite pas à en parler. Hier même, j'ai reçu un mail dans le cadre de ces questions qui sont posées. Il y a une personne, l'avantage avec le mail, c'est qu'on ne connaît pas votre nom. D'accord ? Par exemple, moi, je m'appelle Ibrahim. Je ne suis pas obligé de mettre Ibrahim Mullah au bas de votre mail. Non. D'accord ? Je peux mettre n'importe quel nom. Je peux mettre XZ978 et tout et tout. Mais personne ne sait. Et une personne me pose cette question. Il me dit que voilà, j'ai une addiction à tel péché. Il ne m'a pas précisé quoi. Il m'a dit, je fais un péché précis. Mais j'arrive pas à m'en défaire. Tous les jours, je fais une niyad d'arrêter, je demande tawba, mais j'arrive pas, explique-moi quelle méthode, etc., etc. Donc, c'est des questions parfois une question peut concerner beaucoup de personnes. On peut se dire, ah, tu sais, moi aussi, mais arrête pas. J'ai des jeunes qui m'ont dit que, vous savez, comme ça, on donne chemin, mais guérit pas, je peux pas m'empêcher de regarder les femmes. C'est impossible, c'est difficile. J'essaie de baisser le regard, je dis à un homme, c'est pas, on a dit, mais il est difficile. Ben, par exemple, cette question, ça peut englober 99% des jeunes. Ce genre de questions, d'accord? Ou d'autres addictions, d'autres problèmes liés à d'autres péchés, ben, ce genre de questions qui seront débattues et, inch'Allah, répondues, ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Voyez, faites doigt qu'Allah y met succès dans cette organisation, que c'est un moyen de hidayah pour les jeunes et pour tout le monde. Jazakumullah khair. Et vendredi prochain et le vendredi d'ensuite, on ne fera pas programme. Vendredi prochain, on aura donc une réunion, on ne sera pas ici. Et le vendredi prochain aussi, dans deux semaines, il y a Nika. Donc je ne serai pas là, on ne sera pas là, et puis dans trois semaines, on va reprendre depuis le verset qu'on a laissé aujourd'hui. Jazakallah.